Chapitre 2. Spectacle. Vous connaissez Old Bailey ? Dit au commissionnaire l'un des vieux employés de Tellson et compagnie. « Oui, monsieur, » répondit notre homme d'un ton un peu bourru. « Très bien, vous connaissez également monsieur Lorry. Beaucoup mieux qu'un honnête commerçant, tel que moi, ne peut connaître Old Bailey. À merveille, rendez-vous à la porte des témoins et montrez ce billet au concierge, il vous laissera entrer. Dans la salle où se tient la cour ? Précisément. » Les yeux de M. Cruncher parurent se rapprocher plus que jamais et s'adresser l'un à l'autre cette question embarrassante. « Qu'en penses-tu »« Dois-je attendre la réponse ?» demanda le messager, comme si cette phrase eût résulté de la conférence que venaient d'avoir ses yeux. « Je vais vous le dire. Le concierge fera passer le billet à M. Lorry, dont vous attirerez l'attention par vos gestes afin qu'il sache où vous êtes. Et vous resterez à la même place jusqu'à ce qu'il ait besoin de vous. » « Est-ce tout, monsieur ?»« Complètement. Il désire avoir un commissionnaire sous la main et ce billet a pour but de l'avertir de votre présence. » Le vieux commis plia soigneusement son billet, y mit l'adresse et au moment où il le passait dans son buvard, il entendit la phrase suivante. « On juge probablement un faux en écriture publique, » demandait M. Cruncher. « Un crime de haute trahison. » « Le supplice de l'écartèlement, » dit le messager. Quelle barbarie! C'est la loi, objecta l'homme de banque en tournant ses lunettes étonnées sur le commissionnaire. C'est la loi. Une loi cruelle, monsieur. Il est bien assez dur de tuer un homme sans lui arracher les membres, répliqua Jerry. Du tout, riposta l'employé. Cela ne suffit pas. Quant à vous, mon brave, je vous conseille de traiter la loi avec un peu plus de respect. Soignez votre poitrine, économisez vos paroles. « Croyez-moi, laissez à la justice le soin de faire ce qui la regarde et de le faire comme elle l'entend. »« C'est l'humidité, monsieur, qui me tombe sur la poitrine et qui m'enroue. Si vous saviez de quelle façon humide je gagne ma vie, » retourna le commissionnaire. « Bien, bien, » rétorqua le vieil employé. « Nous gagnons tous notre vie d'une manière ou d'une autre. Voici la lettre. Partez vite et ne vous amusez pas. » Jerry prit le billet et dit en lui-même, avec moins de respect qu'il n'en laissa paraître, « Si je suis enroué, vous êtes diablement maigre, vous. » Il salua le commis, informa son fils en passant de l'endroit où il allait et se dirigea vers la cour d'assises. À cette époque, c'est à Tyburn que l'on pendait et la rue de Newgate n'avait pas cette infâme notoriété qui depuis lors s'est attachée à son nom. Mais la vieille geôle n'en était pas moins un lieu abominable où l'on pratiquait tous les genres de débauche et de scélératesse et où il s'engendrait d'horribles maladies qui, se ruant au dehors, atteignaient jusqu'au chef de la justice et l'arrachaient de son banc pour le jeter dans la fosse. Il est arrivé plus d'une fois que le juge qui présidait au débat d'une affaire criminelle recevait son arrêt de mort en même temps que le coupable et souvent mourait le premier. Old Bailey avait, du reste, plus d'un titre à la célébrité. C'était la cour d'une hôtellerie meurtrière, d'où sortaient sans cesse de pâles voyageurs qui, soit en carrosse, soit en charrette, partaient violemment pour l'autre monde et qui arrivaient au but fatal après une traversée d'environ 2 000 sur la voie publique, où ils faisaient rougir quelques bons citoyens, ce qui toutefois était rare, tant l'usage est puissant, et tant il est désirable qu'ils soient bons dès l'origine. C'est à Old Bailey qu'était placé le pilori, institution antique et sage, qui infligeait un châtiment dont personne ne pouvait prévoir l'étendue. On y trouvait également le poteau où l'on attachait ceux qui devaient subir le fouet, autre ancienne institution, dont la vue était bien faite pour adoucir le caractère du spectateur et pour lui inspirer des sentiments d'humanité. C'était encore dans ces lieux maudits que se traitait le prix du sang, transaction infâme, réglée par la sagesse de nos ancêtres, et qui conduisait systématiquement aux crimes mercenaires les plus effroyables que l'on commette sous le ciel. Bref, Old Bailey, à cette époque, était un précieux commentaire de l'opinion qui veut que tout ce qui est soit équitable et bien. L'opinion décisive, aussi satisfaisante pour la conscience qu'agréable pour la paresse, si elle n'impliquait pas cette conséquence embarrassante et forcée, que rien de ce qui fut a jamais été mal. Se frayant un passage à travers les groupes qui encombraient cet affreux théâtre d'actions hideuses, Le commissionnaire trouva bientôt la porte des témoins et remit sa lettre au concierge par un guichet de recette, car on payait alors pour voir la pièce que l'on jouait à Old Bailey, ainsi que pour assister à celle qui se représentait à Bedlam. Seulement le premier de ces deux spectacles était beaucoup plus cher que l'autre. C'est pourquoi toutes les portes de la geôle étaient fermées et gardées, à l'exception toutefois de celle par où entraient les prévenus et qui était toujours grande ouverte. Après une longue hésitation, la porte, à laquelle avait frappé Jerry, s'entrebâilla en grinçant et permit au commissionnaire de pénétrer jusque dans la salle des assises. « Où en est la cause ?» demanda tout bas M. Cruncher à son voisin. « On n'a rien fait encore. » Qu'est-ce qui va venir ? Un cas de haute trahison. Coupé en quatre, hein ? Oui, répondit l'homme d'un air affriandé. Il sera traîné sur une clé, ensuite à demi pendu. Puis on le détachera de la potence, on l'écorchera vif sur la poitrine, le ventre, les cuisses et les côtes, on lui enlèvera les chairs qu'on brûlera sous ses yeux, on lui tranchera la tête et enfin on le coupera par quartier. C'est la sentence. « Si toutefois il est reconnu coupable, » ajouta Jerry provisionnellement. « Oh, n'ayez pas peur, » dit l'autre, « il sera condamné pour sûr. » Ici, l'attention du commissionnaire fut détournée par le concierge qui se dirigeait vers M. Lorry, tenant à la main le billet qu'il devait remettre à ce dernier. Le gentleman, entouré d'avocats portant perruque, était assis devant une table, non loin du conseil de l'accusé, et presque en face d'un autre avocat, également à perruque, ainsi que les précités, et qui, les mains dans les poches, regardait le plafond d'un air méditatif. Après avoir toussé à diverses reprises, agité la main et s'être frotté le menton, Cruncher parvint à se faire remarquer de M. Lorry, qui, debout, le cherchait du regard, et qui, l'ayant aperçu, lui fit un léger signe de tête et se rassit immédiatement. « Quel rapport ce monsieur a-t-il avec la cause ?» demanda au commissionnaire l'homme avec qui celui-ci avait entamé la conversation. « Que je sois pendu si je le sais, » dit Jerry. « Et vous-même, qu'est-ce que vous êtes dans l'affaire, pourrait-on le savoir ?» continua le voisin d'un air de vif intérêt. « Je ne le sais pas davantage, » répliqua le messager. L'arrivée du juge et le tumulte qui s'ensuivit interrompirent ce dialogue. Tous les regards se fixèrent aussitôt sur la porte qui communiquait avec la prison. Deux geôliers, qu'on voyait là depuis l'entrée du public, disparurent un instant et ramenèrent l'accusé qui fut conduit à la barre. Toutes les personnes présentes, à la seule exception de l'avocat dont les mains étaient dans les poches, ouvrirent de grands yeux et les attachèrent sur le prévenu. Le souffle de toutes les poitrines roula vers lui comme une onde entraînée par le courant. Des figures avides se tendirent avec effort autour des piliers, dans les coins, dans l'embrasure des fenêtres, afin de l'apercevoir. Les gens qui étaient dans l'amphithéâtre se levèrent pour ne pas perdre un détail de cette vue intéressante. Ceux qui étaient de niveau avec la cour placèrent leurs mains sur les épaules des personnes qui étaient devant eux et restèrent sur la pointe du pied. Les autres grimpèrent sur leurs sièges, sur le rebord des lambris, sur presque rien, pour contempler le héros du drame qui allait s'ouvrir. Parmi ces derniers, et fort en évidence, était Jerry, plus hérissé que jamais, et dont l'haleine, chargée d'un pot de bière qu'il avait bu en chemin, se mêlait aux vagues d'ale, de porteurs, de gin, de thé, de café, de tout au monde qui se précipitait vers l'accusé, vagues impures qui déjà se déposaient en brouillard méphitique sur les carreaux des grandes fenêtres situées derrière le prévenu. Le point de mire de tous ces regards était un jeune homme d'environ 25 ans, ayant une belle taille, de beaux traits, l'air noble et distingué, l'œil brun, la peau hâlée par le soleil. Il était simplement vêtu de gris et de noir, et ses longs cheveux châtains étaient rattachés derrière le cou par un ruban, destiné à les retenir d'une façon commode plutôt qu'à servir de parure. Comme l'esprit révèle toujours ce qu'il ressent, malgré l'épaisseur du masque dont on couvre le visage, l'émotion du prévenu se trahissait par la pâleur qui perçait à travers le brun de ses joues. Du reste, il était calme et s'assit tranquillement, après avoir salué le juge avec aisance et dignité. Le genre d'intérêt qu'il inspirait à la foule et qui tenait tous ses yeux ouverts, toutes ses poitrines haletantes, n'était pas due à l'un des sentiments qui honorent l'humanité et qui l'élèvent. L'espèce de fascination que ce malheureux jeune homme exerçait sur les spectateurs venait de l'effroyable arrêt dont il était menacé. Elle eût perdu de sa force en raison des chances qu'il aurait eues d'échapper aux détails du supplice. Le corps qui allait être si affreusement mutilé formait le spectacle des yeux, et les tortures que devait subir cet être immortel, dont les chairs et les membres allaient être arrachés, fournissaient l'émotion. Quel que fût le vernis que, suivant leur plus ou moins d'habileté dans l'art de se tromper soi-même, les spectateurs de ce drame honteux parvinssent à étendre sur les motifs qui les y avaient amenés, l'intérêt qu'ils y prenaient avait sa source dans un instinct féroce, un appétit sauvage. Silence devant la cour. L'acte d'accusation a dénoncé hier Charles Darnay comme s'étant rendu coupable de trahison envers le très puissant, très célèbre, très excellent, très auguste prince, Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne. Comme ayant, à diverses reprises et par des moyens frauduleux, prêté son concours au roi de France dans la guerre que fait celui-ci au prince très célèbre, très excellent, etc., comme ayant fait des voyages multipliés des états de son auguste et puissante majesté britannique à ceux du dit roi de France, à cette fin de révéler méchamment, faussement, traîtreusement et autres injures en ment, au dit roi de France, quelles sont les forces que notre dit prince très célèbre, très puissant, très excellent, etc., se dispose à envoyer dans le nord de l'Amérique, ce dont le prévenu susnommé a refusé hier de se reconnaître coupable. Après avoir suivi tous les détours de cet extrait de l'acte d'accusation, Jerry, de plus en plus hérissé à mesure que la loi multipliait les adverbes et les superlatifs, découvrit avec joie que le procès du susdit Charles Darnay allait enfin commencer, que tous les membres du jury avaient prêté serment et que M. Latornay général était sur le point de prendre la parole. L'accusé, qui était déjà pendu, écorché, décapité mentalement par chacun des spectateurs et qui ne l'ignorait pas, resta ferme et digne, sans qu'il y eût néanmoins d'affectation dans sa pose et dans sa physionomie. L'air grave et attentif, il suivait avec un sérieux intérêt l'ouverture des débats et se possédait assez pour n'avoir pas même dérangé l'un des brins d'herbe qui couvrait la tablette où reposaient ses deux mains. Toute la salle était jonchée de plantes aromatiques et on l'avait aspergée de vinaigre afin de combattre les effluves de la geôle et de se prémunir contre les atteintes de la fièvre de prison. Vis-à-vis du banc des prévenus était un miroir destiné à rabattre la lumière sur la tête de l'accusé. Que de misérables avaient été réfléchis par ce trumeau et dont l'image avait disparu de la terre en même temps qu'elle s'était effacée du miroir. Quelle armée de spectres eût visité ces yeux abominables si la glace avait rendu tous les visages qui s'y étaient reproduits, comme un jour l'océan doit rejeter tous les morts qu'ont engloutis les flots. Peut-être la pensée du déshonneur qui attendait sa mémoire, peut-être l'idée du supplice traversa-t-elle l'esprit de l'accusé, je l'ignore. Toujours est-il que Charles Darnay fit un mouvement et qu'en changeant d'attitude, il leva les yeux pour voir d'où sortait la lumière qui lui frappait la figure. Le sang lui monta au visage quand il aperçut la glace qui était placée devant lui et sa main écarta vivement les brins d'herbe. Voulant éviter le miroir, il tourna la tête vers la cour qui se trouvait à sa gauche. Au niveau de ses yeux, près de l'endroit où siégeait le juge, étaient assises deux personnes qui arrêtèrent son regard, et cela d'une manière si soudaine et en produisant chez lui une impression tellement vive que tous les yeux, dont il était le point de mire, se dirigèrent aussitôt vers ces individus. On aperçut alors une jeune fille de 20 et quelques années et un vieillard, évidemment son père. Celui-ci vous frappait à première vue par ses cheveux d'un blanc de neige et par l'expression indescriptible de son visage, reflet d'un esprit peu actif, mais d'une profondeur, d'une puissance méditative extraordinaire. Quand cet homme se renfermait en lui-même, ce qui paraissait lui être habituel, vous auriez dit qu'il était vieux. Mais quand il s'animait, comme à l'instant dont nous parlons, il était vraiment beau et semblait dans toute la force de l'âge. La jeune fille, bien qu'elle fût assise, avait croisé ses deux mains sur le bras de son père, dont elle se rapprochait le plus possible dans l'effroi que lui inspiraient les débats. Il était facile de comprendre qu'elle ne voyait que le péril de l'accusé. Son front pâle exprimait tant d'alarme, sa compassion était si visible, si touchante, que les spectateurs, qui n'avaient pas eu pitié de lui, se laissèrent toucher par elle, et chacun demanda tout bas quelles étaient ces deux personnes. Jerry, qui de son côté les observait, tout en suçant la rouille dont ses doigts étaient couverts, allongea le cou pour mieux entendre ce qu'on disait autour de lui. « Qui sont-ils ? » avait-on répété de bouche en bouche dans la foule, jusqu'à ce que la question fût arrivée à un huissier de la cour. Et la réponse de celui-ci revenait à ceux qui l'avaient provoquée, mais avec plus de lenteur. À la fin, cependant, elle atteignit la place où était le commissionnaire. Ce sont des témoins. De quel côté ? À charge. Le juge, qui avait cédé à l'impulsion commune, rappela ses yeux à son banc, s'appuya au dossier de son fauteuil et fixa un regard ferme sur l'homme dont il tenait la vie dans ses mains, tandis que l'attorney général se levait pour filer la corde, aiguiser la hache et dresser l'échafaud.